Est-ce qu'en 2024, la beauté influence encore le recrutement? On en parle avec notre spécialiste en ressources humaines, la présidente du réseau Annie RH, Annie Boilard. Bonjour!
Bonjour Valérie!
Annie, tu as été inspirée par la sélection de Geneviève Biron comme la fameuse Top Gun de service santé, sans nécessairement là, lui dire qu'elle est juste belle puis c'est pour ça qu'elle a été choisie, là. On s'entend?
Oui, absolument, Valérie. Puis on veut nullement insinuer que Mme Biron ait été recrutée pour nulle autre raison que ses compétences, c'est certain. Mais ça l'ouvre la porte hein, à une réflexion. Est-ce que la beauté a encore une incidence dans nos vies professionnelles?
Est-ce que, en 2024, là, on peut dire que ça n'a plus aucun rapport, qu'on ne prend plus ça en considération?
On aimerait ça se dire ça, Valérie. On se dit, hey, on est passé par-dessus, tu sais, il y a eu bien de l'eau sous les ponts depuis l'âge où on se faisait beaucoup influencer par la beauté. Mais malheureusement, encore en 2024, à cause des biais qui s'opèrent dans notre cerveau, moi, comme professionnelle des ressources humaines, je ne peux pas mettre ma main sur mon cœur et te jurer que, hors de tout doute, tous les processus de recrutement au Québec sont présentement exempts de favoritisme envers les belles personnes.
Puis même si on veut pas, hein, ça vient vraiment peut-être automatiquement.
Ah, c'est ça. Pour nous, en ressources humaines, là, on se tire les cheveux sur la tête avec cette histoire-là parce que nous ne voulons pas recruter les belles personnes. Nous voulons recruter les meilleures personnes pour le poste. Rien ne nous fait plus plaisir que d'avoir la bonne personne sur le bon siège de l'autobus et on souhaite recruter des compétences. On n'en a rien à foutre de la beauté, mais malheureusement, à moins qu'on fasse très attention, on peut encore se faire avoir par des biais.
Et là, tu parles de ces biais cognitifs-là, ces biais qui sont inconscients. C'est quoi ça au juste?
Bon, alors des biais inconscients, des biais cognitifs, ce sont des raccourcis dont s'est doté notre cerveau pour se permettre de prendre toutes les décisions que nous devons prendre dans une journée. En général, dans la vie, là, nos biens inconscients, ils nous servent bien. Ils nous permettent d'accélérer. Sinon, à chaque fois qu'on devait déposer notre crayon, qu'on doit décider où se stationner, comment on va tourner notre volant, tout prendrait beaucoup d'énergie. Alors, ces raccourcis nous aident. Mais dans certains cas, comme dans les processus de recrutement, là, ces raccourcis nous desservent. Est-ce que ça donne quelques exemples, Valérie?
Oui, vas-y.
Pour illustrer le propos?
Oui.
Alors, le concept qui est derrière ce que nous sommes en train de se dire, ça s'appelle l'effet halo. Des biens inconscients, il y en a plus d'une centaine de documentés, dont celui-là, l'effet halo, qui a été démontré il y a bientôt une centaine d'années et qui vient expliquer pourquoi, dans notre cerveau, on donne un priori positif. On apprécie être en présence de personnes qui sont de jolies personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens pour qui le visage est symétrique, notre cerveau a encodé que ce sont des gens à qui on peut faire confiance. C'est ce qu'il y a derrière ça. Donc, mes deux exemples, Valérie, imagine, un groupe de personnes scindé en deux. Tout le monde dans l'expérience va parler au téléphone, seulement audio, sans voix, va parler audio avec la même dame, la même personne. Au groupe A, on montre une photo en disant « voici votre interlocutrice ». Et il s'avère être une photo d'une belle personne. Au groupe B, on montre la même chose, une photo également, mais d'une personne d'apparence un peu plus moche. Mais Valérie, il s'est avéré que de façon significative, les gens qui croyaient avoir parlé à une belle personne ont dit de la discussion qu'elle était fluide, que la personne avait des habiletés sociales. Ils ont même trouvé que la personne était plus intègre et authentique. Et finalement, ils ont plus apprécié la discussion que ceux qui avaient l'impression de parler avec une personne d'apparence plus moyenne.
Ouais.
C'est fou, hein?
Est-ce qu'on est plus dur avec les femmes qu'avec les hommes ou c'est à peu près équivalent dans ce cas-ci?
Ça s'équivaut beaucoup et ça m'amène à notre deuxième exemple où là, il y a un écart genré. Alors, puis on va voir, il y a peut-être un petit peu plus de pression pour les femmes encore en 24 ouais. que pour les hommes. Donc, cette deuxième étude a été faite aux États-Unis en 2009. Les chercheurs appliquaient sur des postes qui étaient publics, là. Des gens qui voulaient recruter, donc ils avaient affiché des postes. Ce que les chercheurs faisaient, c'est qu'ils constituaient des CV exactement pour répondre aux postes qui étaient affichés. Sur certains CV, ils ont appliqué une photo d'un bel homme, sur l'autre partie, une photo d'un homme d'apparence plus ordinaire. Puis, même chose pour les dames. Donc, ils ont apposé pour une certaine partie des séries une belle femme, puis ensuite une femme plus ordinaire. Mais c'est avéré que les hommes avec une belle photo se sont vus conviés en entrevue 35 % plus souvent. Et pour les femmes, 40 % plus souvent, celles qui avaient apposé une belle photo sur leur CV. En fait, les chercheurs avaient apposé une belle photo. Donc, on voit que oui, ça a une incidence genrée.
Puis, rapidement, en terminant, qu'est-ce qu'elles font, les entreprises, pour prévenir cette espèce de distorsion décisionnelle-là lors des décisions d'embauche? Est-ce que tu vas me sortir un argument d'intelligence artificielle?
Non, c'est plus simple que ça encore. Le mot magique, Valérie, c'est structure, organisation dans les processus de recrutement. On veut enlever tout ce qui est pifomètre. Tu sais, le pifomètre, là, ça, c'est « Oh, cherche un fit ». Des fois, il y a des recruteurs qui vont dire ça. Là. Chercher un fit avec l'équipe ou encore quand je rencontrerai la bonne personne, je le saurai. Quand on recrute ainsi, bien là, c'est le paradis pour nos préjugés puis nos biens inconscients parce qu'il n'y a pas de limite.
Ouais.
Alors que quand on se structure, des questions claires, on note les réponses, on compare les réponses par candidat, alors là, on a plus de chances d'éviter ces pièges et d'être beaucoup plus objectifs dans nos recrutements.
Et quand on est plusieurs à choisir la personne aussi, j'imagine?
Oui, c'est ça. Un processus structuré, là, c'est des questions préétablies. Chaque personne, chaque candidat va répondre aux questions. Ensuite, on compare question par question. On compare les réponses par question et non pas par personne. Et on alloue des points. Typiquement, il y a une personne neutre dans le processus, quelqu'un qui n'était pas présent aux entrevues. Et là, on est vraiment dans un processus qui est objectif et non pas subjectif.
Ouais, on va souhaiter changer ses biais, mais c'est pas facile, ça fait partie de la nature. Merci beaucoup, Annie Boilard.
Ça fait très plaisir, Valérie. Bonne journée.
À la semaine prochaine.